3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Suite au départ de l'acteur Timothy Dalton de la franchise de James Bond en 1994 à cause d'une période de litige juridique entre la compagnie MGM et les producteurs de la série, ces derniers décideront d'introduire une M féminine, remplaçant ainsi le personnage jusque-là incarné uniquement par des hommes. Ce sera l'actrice Judi Dench qui sera alors approchée pour incarner le chef de l'agent 007 dans GoldenEye en 1995. Leur choix s'étant en partie inspiré du personnage de Stella Remington, première femme à diriger le MI5. De plus, Dench avait un lien personnel avec Feu Bernard Lee, qui avait incarné M dans les précédents films de James Bond, ce dernier étant le propriétaire de l'édifice où demeurait l'actrice lorsqu'elle était étudiante en art dramatique. Poussée par son mari, qui était un amateur de James Bond, Dench acceptera le rôle personnage qu'elle incarnera par la suite dans plus de 8 films sur une durée de plus de 20 ans. Dame Judi Dench est née le 9 décembre 1934 à Hewortham, dans le comté de York, en Angleterre, et est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes actrices britanniques, étant versatile et ayant interprété plus de 150 rôles au théâtre, à la télévision ainsi qu'au cinéma, sur une période de plus de 7 décennies. Durant sa carrière, qui débuta en 1957, l'actrice remportera un Academy Award, un Tony Award, 2 Golden Globe Awards, 4 British Academy Television Awards, 6 British Academy Film Awards, 7 Oliver Awards, un prix BAFTA pour la nouvelle venue la plus prometteuse dans le domaine, sans oublier un prix à la Society of London Theatre Special Award et surtout le British Film Institute Fellowship Award. Ce sera d'ailleurs son rôle de M qui lui donnera une visibilité internationale, son personnage couvrant toute la période Pierce Brosnan et traversant dans celle de l'acteur Daniel Craig, avec qui elle jouera dans presque tous les films, à l'exception de No Time to Die, l'actrice, pleurant en apprenant que son personnage serait tué dans Skyfall. Au début de 2004, la compagnie de jeux vidéo Electronic Arts créera un jeu vidéo sur 007 intitulé Everything or Nothing qui mettra en vedette Richard Keel dans le rôle de Jazz, John Cleese dans le rôle de Q, Pierce Brosnan dans le rôle de Bond, ainsi que Dame Judi Dench qui reprendra ici son rôle de M, une première pour la Britannique qui renouvellera l'expérience à plus de 5 autres reprises, les autres jeux vidéo étant créés entre 2004 et 2012. Dench fut nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique, dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, membre de l'Ordre des Compagnons d'honneur et a également reçu divers prix, titres et diplômes scolaires, honorifiques et du Commonwealth. En 2024, Dench et Sion Phillips deviendront les toutes premières femmes membres du Garrick Club, un club privé londonien fondé en 1831 qui permet aux acteurs et aux hommes de haute renommée de se rencontrer sur un pied d'égalité. Il s'agit de l'un des plus anciens clubs au monde, ce dernier comprenant plus de 1500 membres à son actif. Malheureusement, l'actrice annoncera qu'elle souffrait d'une maladie dégénérative des yeux, ce qui la rendra peu à peu aveugle et la forcera à prendre sa retraite du milieu artistique en mai 2024. Dame Judi Dench demeure l'une des actrices britanniques les plus appréciées et les plus aimées de l'univers complexe de l'agent 007. Donc, prenez votre Walker PPK et soyez prêts pour l'aventure alors que nous assisterons ici aux dernières histoires mettant en vedette l'actrice Judi Dench dans le rôle de M, soit Quantum of Solace du réalisateur Mark Foster et Skyfall du metteur en scène Sam Mendes, film qui marquera la mort d'un personnage iconique et aimé des fans de la franchise.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. This drive-in theater is radioactive. Now you can hear tonight's show on your AM car radio. Turn your ignition key to the accessory position. This will not drain your car battery. Now turn on your radio and zero in on the following AM station.
We hope you have a wonderful time. Come back soon.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
And now, on with the show.
J'ai toujours été très curieux de vous rencontrer. Vesper m'avait tant parlé de vous. Nous vous aurions recruté, vous aussi, si elle ne s'était pas tuée.
Pour qui travaillez-vous ?
En premier lieu, sachez bien que nous avons des hommes absolument partout.
Je croyais que je pouvais me fier à vous. Et ce n'était pas la vengeance qui vous motivait.
C'est mon devoir qui me motive.
Une rage aveugle vous consume et vous vous moquez du mal que vous faites. Quand on ne distingue plus ses amis de ses ennemis, il est temps de se retirer.
Ne vous en faites pas pour moi.
Limitez les déplacements de Bond. Mettez tous ses passeports sur liste noire. Prouvez Bond.
Il me reste combien de temps ? 30 secondes. Alors il va falloir faire vite.
Quantum of Solace, ou 007 Quantum, est un drame d'espionnage qui a été distribué par les studios Sony Pictures et MGM Studios le 31 octobre 2008 à Londres, ainsi que le 14 novembre 2008 aux États-Unis. Ce film américano-britannique d'une durée de 106 minutes a coûté plus de 230 millions de dollars à produire et a amassé plus de 589,6 millions de dollars à travers le monde entier. À la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène allemand Mark Forster, lui qui avait réalisé les films Neverland, Monsters Ball et World War Z. Au niveau du poste de producteur, eh bien, ce sera la productrice américaine Barbara Dana Broccoli, elle qui avait produit les films Radiator, The Silent Storm et GoldenEye, qui partagera ici son poste avec le producteur américain Michael Wilson, lui qui avait produit les films License to Kill, Tomorrow Never Dies et Spectre. Au niveau de la scénarisation, c'est le scénariste Paul Haggis, ce scénariste canadien qui avait réalisé les scénarios de Million Dollar Baby, Crash et Flags of Our Fathers, qui travaillera ici aux côtés du scénariste britannique Neil Purvis, lui qui avait écrit les scénarios de Let Him Have It, Plunkett et McLean, ainsi que Robert Wade, ce scénariste britannique qui avait écrit An American Werewolf in Paris et le film Stone. Dans la distribution, on y retrouve Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright et Judi Dench. Déterminé à venger le meurtre de sa petite amie, un agent secret britannique est envoyé à Haïti où il tue une des têtes dirigeantes d'une organisation criminelle, ce qui le conduit à un milliardaire qui, sous le couvert d'un activiste environnemental, s'est lié à un dictateur déchu en Bolivie afin de s'approprier les réserves d'eau de ce pays. En octobre 2005, avant le début du tournage de Casino Royale, les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade débuteront leur travail sur le scénario de la 22e histoire des aventures de l'agent 007, désirant exploiter les émotions du personnage titulaire après la mort de Vesper dans le film précédent. Plusieurs mois plus tard, alors que Casino Royale était en post-production, les dirigeants de la Eon Production annoncera que le réalisateur Roger Mitchell, qui avait dirigé l'acteur Daniel Craig dans Enduring Love et The Mother, avait entamé des négociations pour réaliser le film, une date de sortie étant donc confirmée pour le 2 mai 2008, avec Craig reprenant le rôle principal de l'agent 007. Purvis et Wade termineront l'ébauche de leur scénario, alors intitulé Sleep of the Dead, ce qui permettra alors à Paul Haggis, qui avait peaufiné le script de Casino Royale, de débuter son travail de réécriture. Cependant, celle-ci sera plus longue que prévu, la menace d'une grève de la Writers Guild of America mettant alors de la pression et de l'ombre sur le projet. Inquiet du calendrier de production et de l'absence d'un scénario finalisé, Mitchell décidera de se retirer du projet car ce dernier ne voulait pas commencer son tournage avec un scénario incomplet, ce qui ne lui aurait pas permis de se préparer méticuleusement comme il le souhaitait. Dû à ce soudain départ, la date de sortie sera alors repoussée à la fin de l'année 2008. Suite à la décision de Mitchell de quitter, les metteurs en scène Tony Scott, Jonathan Mostow, Mark Forster et Alex Proyas seront envisagés pour le poste devenu vacant. Ce sera finalement Forster qui sera confirmé au poste de réalisateur, ce dernier étant surpris d'avoir été approché car il n'était pas un grand fan de la franchise. Né en Allemagne et élevé en Suisse, Forster sera le tout premier metteur en scène de la franchise à ne pas être originaire de l'Angleterre. C'est alors que Haggis, Forster et Wilson réécriront l'histoire du scénario, Forster désirant raccourcir la durée du long-métrage pour que celui-ci soit en dessous des 2 heures. Le script de base sera terminé seulement quelques heures avant le début officiel de la grève de la Writers Guild of America, qui durera du 5 novembre 2007 jusqu'au 12 février 2008. Ce sera finalement le producteur Michael Wilson et la productrice Barbara Broccoli qui choisiront le titre Quantum of Solace avec l'accord de l'acteur Daniel Craig, ce titre provenant de celui d'une nouvelle parue à l'intérieur de l'anthologie For Your Eyes Only, écrite par l'auteur Ian Fleming et publiée en avril 1960 au Royaume-Uni. Hormis le titre, le film n'aura aucun lien avec la dite nouvelle, Quantum, devenant le nom de l'organisation criminelle introduite dans Casino Royale. Afin de s'épargner les blessures subies lors des cascades du premier film, Craig se mettra alors à l'entraînement physique qui impliquera alors de la course à pied et de la boxe. Cependant, le tournage de Quantum of Solace sera nettement plus exigeant que celui de Casino Royale, l'acteur se blessant au visage à la suite d'un coup de pied qui nécessitera plus de 8 points de suture, subira une blessure à la main où il aura un bout de doigt sectionné, recevant de nouveau des points de suture, et subira également une blessure à l'épaule, cette dernière, nécessitant une intervention chirurgicale. Le réalisateur Mark Forster choisira l'actrice ukrainienne Olga Kurylenko parmi plus de 400 femmes afin d'incarner le personnage de Camille Montez. Kurylenko passera plus de 3 semaines à s'entraîner sans relâche du matin au soir au combat avec des armes et apprendra également une forme de parachutisme appelée body flying. Cependant, à l'origine, les producteurs avaient prévu de choisir une actrice sud-américaine pour le rôle, ce qui forcera alors Kurylenko à s'entraîner avec un coach de dialecte pour jouer avec un accent espagnol. Pour Gemma Arterton, l'actrice sera sélectionnée par le metteur en scène parmi plus de 1500 candidates. Arterton devra tourner la scène de la mort de son personnage dès le premier jour de tournage où elle était entièrement recouverte de peinture noire non toxique de la tête aux pieds, un clin d'œil au film Goldfinger. Au niveau de l'équipe technique, le chef décorateur Peter Lamont, membre de l'équipe de production depuis plus de 18 films de la franchise, prit sa retraite après Casino Royale. Forster embauchera donc Dennis Gassner pour prendre sa place, ce dernier ayant travaillé sur The Truman Show et divers films des frères Coen. Un autre changement important, Louise Frogley remplacera Lindy Hemming au poste de costumière, bien que cette dernière soit restée superviseure. Hemming occupait ce poste depuis GoldenEye. Ce sera Tom Ford qui sera par la suite embauché pour confectionner des costumes plus élégants pour l'acteur Daniel Craig. Quantum of Solace sera tourné dans plus de 6 pays. Ce sera la deuxième équipe qui commencera le tournage en Italie lors de la course de chevaux Palio di Siena le 16 août 2007. Ces séquences seront filmées à l'aide de 14 caméras et ce, malgré le fait que le réalisateur ne savait pas comment les intégrer dans le film. D'autres scènes seront également tournées à Maratea, Malcesin, Limon sul Garda, Tremosin et Cracco, toutes des petites villes en Italie. Madrid, la Californie, l'Autriche et le Mexique compléteront les emplacements de tournage. Ce sera le 3 janvier 2008 que l'équipe principale débutera son tournage au studio Pinewood en Angleterre. Pour les scènes intérieures et extérieures se situant à l'aéroport, ces dernières furent filmées à l'aérodrome de Farnborough. L'équipe se rendra par la suite à Panama City au début de février à la base aérienne Howard. Ce pays servira de doublure pour Haïti et la Bolivie, une séquence nécessitant plusieurs centaines de figurants étant également tournée à proximité de Colomb. D'ailleurs, les responsables du pays travailleront très fort avec les résidents locaux afin de minimiser les inconvénients pour les acteurs et l'équipe technique, espérant en retour que la visibilité de la ville dans le film augmenterait le tourisme dans la région. Forster avait une vision plus spectaculaire de la scène de poursuite en bateau, mais ne sera pas capable de réaliser ce qu'il désirait, se devant de tourner sa séquence dans une ancienne base militaire américaine sur la côte de Colón. De plus, son équipe de production devait se rendre à Cusco, au Pérou, pour 10 jours de tournage, mais tout fut annulé pour des raisons budgétaires. Toujours pour des raisons monétaires, l'équipe principale tournera des séquences de poursuite sur de véritables toits à Sierra Gorda, au Chili. Cela s'avérant beaucoup moins dispendieux que de reproduire ces toitures dans les studios de Pinewood. Mais le tournage à Sierra Gorda ne sera pas sans embûches, le maire local organisant une manifestation parce qu'il était en colère contre la représentation par les cinéastes de la région d'Antofagasta comme faisant partie de la Bolivie. L'homme sera alors arrêté, détenu brièvement et jugé 2 jours plus tard. Dans un sondage du quotidien chilien La Segunda, 75% de ses lecteurs étaient en désaccord avec les actions de leur mère en raison de l'image négative du Chili qu'ils estimaient qu'elle représentait et du potentiel de controverse à retarder les futures productions souhaitant venir tourner dans leur pays dans l'avenir. D'autres incidents surviendront durant le tournage, dont un ingénieur de la compagnie automobile Aston Martin qui, conduisant sa voiture en direction du plateau de tournage, perdra le contrôle de son véhicule qui se retrouvera dans un lac. Il a survécu à l'accident, mais sera condamné à une amende pour conduite imprudente. Un autre accident aura lieu le 21 avril et deux jours plus tard, deux cascadeurs furent grièvement blessés, dont le cascadeur grec Haris Komnikos, qui dut être placé aux soins intensifs. Le tournage fut temporairement interrompu afin que la police italienne puisse enquêter sur les causes des accidents. Des rumeurs de malédiction sur la production se répandirent dans les tabloïds, ce qui va offenser profondément Daniel Craig, ce dernier étant secoué par la tragédie. Au final, Komnikos se remettra sans effet secondaire de sa blessure. Pour la scène de chute libre, cette dernière comportait son propre lot de défis, le réalisateur ne voulant pas tourner la scène devant un fond vert. Ce sera Daniel Craig et Olga Kurylenko qui feront ici leur propre cascade, ce qui demandera l'utilisation d'un ensemble de 8 caméras, toutes fonctionnant en synchronisation afin de tourner les acteurs flottant dans un simulateur. Lors du tournage, Craig et Kurylenko portaient des lentilles de contact résistantes au vent qui leur permettaient d'ouvrir les yeux pendant la chute. Pour des raisons de sécurité et de confort, ils ne filmaient que 30 secondes à la fois. En juin, l'équipe de production retournera dans les studios Pinewood pendant plus de 4 semaines afin de terminer le tournage qui prendra fin le 21 juin 2008. Cependant, une partie de la production sera impactée par le fait qu'il n'était pas possible pour les producteurs d'avoir sur le set un scénariste, et ce, dû à la grève de la Writers Guild of America. Ce sera donc l'acteur Daniel Craig et le réalisateur Mark Forster qui réécriront les scènes durant une grande partie du tournage. Une fois la grève terminée, Forster embauchera Joshua Zetoumer pour remodeler certaines séquences des dernières parties de tournage en fonction des idées des comédiens du film. Une des scènes finales montrant la mort de M. White aux mains de Bond aurait été filmée, mais les cinéastes supprimeront cette scène en post-production au cas où ils décideraient de faire revenir le personnage qui était alors interprété par l'acteur Jasper Christensen et ainsi poursuivre l'arc narratif de Quantum of Solace dans les suites futures, ce qui sera le cas avec Spectre. Ce nouveau Bond sera également le dernier film de la compagnie automobile Ford qui avait signé avec Die Another Day en 2002 pour 3 films. Bien que Ford ait vendu plus de 90% de la société Aston Martin en 2007, la voiture Aston Martin DBS reviendra pour la course-poursuite autour du lac de Garde. Ce sera Dan Bradley qui fut engagé comme réalisateur de la deuxième équipe en raison de son travail sur les deuxième et troisième volets de la franchise de The Bourne Identity. Cette décision fut prise afin de poursuivre le style d'action brute commencé dans Casino Royale. À l'origine, 3 véhicules Alfa Romeo figuraient dans la séquence d'introduction, mais le réalisateur estima que la scène était beaucoup trop longue et la remontera pour qu'il n'y ait que 2 Alfa à la poursuite de Bond. Plus de 10 voitures seront fournies par la compagnie Aston Martin. 6 voitures survécurent au tournage sans dommage, tandis que les 4 autres furent utilisées pour les effets spéciaux ainsi que les cascades. Pour le générique d'ouverture, celui-ci sera créé par la compagnie MK12, qui avait précédemment travaillé sur d'autres films du réalisateur Mark Forster, dont Stranger Than Fiction et The Kite Runner. D'autres compagnies d'infographie seront également engagées pour cette production, notamment la compagnie Framestore, qui travaillera sur la poursuite à Sienne, dupliquant les quelques 1000 figurants sur place durant le tournage de la séquence pour correspondre au plan de plus de 40 000 spectateurs dans la version finale du long-métrage. Une autre compagnie, The Moving Picture Company, sera engagée pour s'occuper de la séquence culminante à l'hôtel, ses techniciens travaillant au remplacement de quelques plans de cascadeurs par une version numérique de la tête de Craig et recréant les bateaux par-dessus lesquels Bond saute en moto afin de donner un aspect beaucoup plus dangereux à la séquence. Au total, plus de 900 plans d'effets visuels seront réalisés pour Quantum of Solace. Ce sera de nouveau le compositeur David Arnold qui sera de retour ici, ce dernier ayant débuté son travail sur la franchise dans Tomorrow Never Dies. Contrairement au calendrier accéléré auquel il fut soumis pour Casino Royale, Arnold bénéficiera de beaucoup plus de temps pour peaufiner sa composition musicale. Arnold collaborera avec le chanteur Kieran Hebden pour Crawl and Crawl, un remix de la musique jouée pendant le générique de la fin. Jack White, du groupe White Stripes, ainsi qu'Alicia Keys collaboreront sur la chanson Another Way to Die. Il s'agira ici du tout premier duo musical pour une chanson de Bond. Souhaitant travailler ensemble depuis 2 ans, les deux musiciens enregistreront la chanson à Nashville, dans le Tennessee, White jouant de la batterie, tandis que Keys jouait du piano. Le groupe des Memphis Horns contribueront également à la chanson. Le 22e film de la franchise de l'agent 007 sera présenté en avant-première à l'Odéon Leicester Square à Londres le 29 octobre 2008. Les princes William et Harry étaient présents et les recettes de la projection furent versées aux associations caritatives Help for Heroes et à la Royal British Legion. Le film devait initialement sortir au Royaume-Uni et en Amérique du Nord le 7 novembre. Cependant, les exécutifs de la Eon Production devancèrent la date de sortie britannique le 31 octobre, tandis que la date américaine fut, elle, repoussée au 14 novembre, permettant ainsi aux distributeurs de commercialiser le film aux États-Unis durant le week-end du Thanksgiving. Lors de sa sortie au Royaume-Uni, le film rapportera plus de 8 millions de dollars, battant le record du plus gros lancement d'un long métrage durant un vendredi au Royaume-Uni. Le film battra ensuite le record du week-end d'ouverture en Angleterre, encaissant plus de 25 millions de dollars lors de sa première fin de semaine, surpassant le précédent record détenu par Harry Potter and the Goblet of Fire. Du côté nord-américain, le film remportera plus de 27 millions de dollars le jour de son ouverture dans plus de 3451 cinémas au Canada et aux États-Unis et sera le numéro 1 au box-office durant son premier week-end avec des recettes de plus de 67,5 millions de dollars, soit le bond le plus lucratif de la franchise lors de son week-end d'ouverture aux États-Unis. Au final, le drame d'espionnage amassera plus de 319,1 millions de dollars dans le monde et 168,4 millions de dollars en Amérique du Nord, soit quelque peu en dessous des attentes, Casino Royale ayant terminé sa course avec un box-office de plus de 616,6 millions de dollars. Corgi International Limited fabriqua des figurines ainsi que ses traditionnels véhicules die-cast du film. L'entreprise créera également des figurines de 7 pouces à l'effigie des personnages des films précédents. Quant à la compagnie Activision, cette dernière sortira le tout premier jeu vidéo James Bond avec l'effigie de Craig dans le rôle de 007. Ce jeu, également intitulé Quantum of Solace, étant basé sur les deux premiers films de l'ère de Craig. Finalement, la compagnie Swatch fera la conception d'une série de mondes bracelets, chacun inspiré d'un méchant de la franchise de James Bond. Penguin Book publiera une combinaison des nouvelles de Fleming intitulée Quantum of Solace, The Complete James Bond Short Stories. Le livre combinera le contenu des deux recueils de nouvelles de Fleming, soit For You Eyes Only, qui incluait la nouvelle originale Quantum of Solace, et Octopussy and the Living Daylights. Quantum of Solace sortira en DVD et en Blu-ray en Australie, au Royaume-Uni ainsi qu'en Amérique du Nord en mars 2009. Au total, plus de 3 millions d'unités furent vendues, générant des revenus de plus de 44 millions de dollars de recettes additionnelles. Ce 22e film de la franchise sera nominé pour la meilleure musique originale, la meilleure chanson originale, les meilleurs effets visuels, le meilleur film, ainsi que pour le meilleur montage sonore au Satellite Award de 2008. À cet événement, Quantum of Solace ne rapportera que le prix de la meilleure chanson. Il sera également nominé pour le meilleur film d'action au Critics' Choice Award de 2009 ainsi qu'au Empire Award et sera finalement nominé pour le Saturn Award du meilleur film d'action-aventure, tandis que Kurilenko et Dench ont toutes deux été nommés pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Bien que l'acteur Daniel Craig déclarera rétrospectivement que la grève de la Writers Guild of America de 2007-2008 a eu un impact négatif sur la production, le critique de cinéma Gilbert Cruz qualifiera la séquence d'avant-générique du film de la 8e plus grande poursuite automobile de toute l'histoire du cinéma. Du côté des points forts, eh bien, cette suite de Casino Royale se distingue principalement par son rythme haletant qui ne laisse guère de place à des moments morts, le réalisateur cherchant à créer un film dans le style de Tomorrow Never Dies où l'action ne cessait du début à la fin. Daniel Craig nous montre ici une interprétation intense qui se jumelle bien avec le style donné dans cette nouvelle aventure de l'agent 007. L'acteur tient le film sur ses épaules avec confiance et facilité. L'intrigue est assez facile à suivre, le scénario évitant la carte de la complexité. Au final, la courte durée du film nous sauve de cette précédente fin romancée qui avait inutilement ralenti le rythme de Casino Royale en 2006, bien que cette nouvelle aventure de Bond soit tout de même moins bien réussie que son prédécesseur. Mais du côté des points faibles, bien que l'action soit la bienvenue ici, celle-ci est brimée par un montage trop serré qui ne nous permet pas de bien voir la scène, le visuel cherchant à nous montrer rapidement tous les plans différents de chacune des séquences de manière rapide, brisant quelque peu le plaisir de les regarder. C'est comme si le réalisateur n'avait pas assez confiance en ses talents et qu'il cherchait à combler ses défauts avec une succession rapide d'images choc. Le vilain de Quantum of Solace n'est vraiment pas extraordinaire, ce dernier n'étant pas vraiment un adversaire de taille pour Bond, et ce, malgré la bonne interprétation de l'acteur Mathieu Amalric dans le rôle. Finalement, le bras droit de ce vilain est aussi terne que son patron, ce personnage étant sans grande prestance, une femme mettant facilement ce dernier en déroute. De plus, celui-ci va mourir d'une façon tellement ridicule et sans grande émotivité qu'on se questionne sur le pourquoi de sa présence. Finalement, la destruction de la base du vilain à la fin manque de finition. Il aurait fallu un plus gros bang pour compléter la séquence. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur britannique David Arnold qui est de retour ici pour réaliser la trame sonore du film, lui qui avait réalisé la musique des films Stargate, Independence Day, Tomorrow Never Dies et Hot Fuzz. On peut retrouver la trame sonore de Quantum of Solace sur CD, un CD qui a été mis sur le marché le 28 octobre 2008 sous l'étiquette J Records.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
Hello, Q. I've missed you.
Your watch.
How strong is it?
Fairly strong. We haven't had the time to test it properly. Just be careful.
This is going to go brilliantly. Do you a 00?
2 years. I thought you two would get along.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction, of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime!
Get more out of life. Go out to a movie.
Pays.
Angleterre.
Arme.
Abattre.
Agent.
Provocateur.
Meurtre.
Profession.
Skyfall. Skyfall.
Classé. On a des tueurs aux trousses. Mais c'est nous qui allons les tuer.
Skyfall est un drame d'espionnage qui a été distribué en salle par les studios Sony Pictures le 26 octobre 2012 en Angleterre et le 9 novembre 2012 aux États-Unis. Ce film américano-britannique d'une durée de 143 minutes a coûté entre 150 et 200 millions de dollars à produire et à amasser plus de 1,1 milliard de dollars à travers le monde entier. À la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Sam Mendes, lui qui nous avait donné les films Jarhead, Revolutionary Road et 1917. Au poste de producteur, on y retrouve encore une fois Barbara Dana Broccoli, cette productrice américaine qui avait produit les films GoldenEye, Nancy et Quantum of Solace, ainsi que Michael Wilson, ce producteur américain qui avait produit les films The Rhythm Section, Die Another Day et A View to a Kill. Au poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain John Logan, lui qui avait écrit les scénarios de Any Given Sunday et The Last Samurai, Neil Purvis, ce scénariste britannique qui avait écrit le scénario de An American Werewolf in Paris et The World Is Not Enough, et Robert Wade, ce scénariste britannique qui avait écrit le scénario de Johnny English, The Puppet Masters, la version de 1994, et Spectre. Dans la distribution, on y retrouve Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Berenice Marlowe, Albert Finney, Ben Whishaw, Rory Kinnear et Ellen McCrory. Après avoir été accidentellement abattu par une de ses coéquipières à Istanbul, un agent secret britannique doit reprendre du service suite à l'explosion du quartier général du MI6 causée par un ex-agent qui a un vieux compte à régler avec M. Après la sortie de Quantum of Solace en 2008, la productrice Barbara Broccoli annoncera que Bond 23 poursuivrait l'intrigue de l'organisation Quantum qui fut introduite dans Casino Royale. Le développement débutera alors en 2009, mais sera suspendu tout au long de 2010 en raison des difficultés financières de la compagnie MGM. En effet, la maison de production avait contracté une dette importante lors d'un rachat par emprunt en 2005 et la trésorerie de sa cinémathèque avait diminué, rendant la gestion de sa dette difficile. À la fin de 2009, les exécutifs de la compagnie chercheront à la vendre, mais les acheteurs potentiels n'étaient pas disposés à payer suffisamment afin de satisfaire leurs créanciers. C'est alors qu'une restructuration de la dette au moyen d'un plan de faillite préétabli sera négociée avec les créanciers, ce qui a permis à l'entreprise de se débarrasser de plus de 4 milliards de dollars de dettes et ainsi continuer ses opérations. La pré-production de Bond 23 reprendra donc en janvier 2011 avec une date de sortie en salle au Royaume-Uni prévue pour le 26 octobre 2012, soit deux semaines avant la date de sortie prévue aux États-Unis. Avec ce geste, ce nouveau projet signera le 50e anniversaire de la franchise, le premier film de la série Dr. No étant sorti en salle en 1962. Le budget du film sera alors estimé entre 150 et 200 millions de dollars américains, budget qui incluait une équipe de tournage qui devait suivre toute la production du film afin de documenter la production et ainsi souligner ce 50e anniversaire. Le scénariste Peter Morgan fut initialement chargé d'écrire le script, mais ce dernier quittera le projet lorsque MGM se placera sous la protection de la faillite. Avant son départ, cependant, Morgan travaillera avec les deux scénaristes Neil Purvis et Robert Wade sur l'histoire, déclarant par la suite être responsable de l'histoire de fond du film, affirmation qui sera alors niée par Purvis et Wade. Pour le réalisateur Sam Mendes, ce dernier sera embauché peu après la sortie de Quantum of Solace et restera consultant sur la production pendant l'incertitude entourant la situation financière de MGM. Mendes, qui avait déjà travaillé avec Craig sur Road to Perdition, avait déjà évoqué à l'acteur britannique qu'il aimerait bien réaliser un film de Bond et acceptera de réaliser le nouveau film suite à une rencontre avec les producteurs Michael Wilson et Barbara Broccoli. Après la lecture de la première version du script, Mendes sera déçu du résultat final et demandera à Purvis et Wade de retravailler la majeure partie du scénario tout en demandant que soit conservé à la fin la mort du personnage de M. Purvis et Wade écriront donc un nouveau scénario inspiré des films You Only Live Twice et The Man with the Golden Gun. Cette nouvelle histoire, intitulée Nothing is Forever, ne sera toujours pas au goût de Mendes, qui embauchera alors le scénariste John Logan, qui conservera la majeure partie de l'histoire de base de Purvis et Wade, mais qui changera le reste. Le dramaturge britannique Jez Butterworth, contribuant également à l'écriture, mais de façon non créditée. Au niveau de la distribution principale, Daniel Craig sera de retour pour une troisième fois dans le rôle emblématique de Bond, alors que l'actrice Judi Dench reprendra pour une septième fois son rôle de M. Ce film marquera également le retour de l'Ashton Martin DB5, du personnage de Q, qui sera interprété ici par l'acteur Ben Whishaw, ainsi que Miss Moneypenny, interprétée ici par l'actrice Naomi Harris, les deux personnages iconiques étant absents dans les deux précédentes aventures de l'agent 007. Berenice Marlowe, quant à elle, deviendra la 8e actrice française à jouer l'un des rôles principaux féminins dans la franchise de Bond. L'acteur britannique Simon Russell Beale sera embauché par Mendes, tout comme le comédien Javier Bardem, ce dernier étant choisi pour incarner le méchant principal. Fait cocasse, Bardem fera traduire son scénario dans sa langue maternelle, soit en espagnol, afin de se préparer pour son rôle. De plus, l'acteur se fera teindre les cheveux en blond après avoir réfléchi à des idées pour un look visuel distinct, le tout avec le soutien de Mendes. Ralph Fiennes sera choisi pour incarner le personnage de Gareth Malroy, qui deviendra M à la fin du long-métrage. Fait cocasse, Fiennes avait déjà été pressenti pour incarner Bond lors du casting de GoldenEye, rôle qui ira finalement à l'acteur Pierce Brosnan. Pour le rôle de Kincaid, Mendes demandera la participation de Albert Finney, qui acceptera volontiers. De plus, les producteurs envisageront brièvement de contacter l'acteur Sean Connery pour que ce dernier joue un petit caméo pour ce 50e anniversaire, mais décideront finalement de ne pas le faire. Au niveau technique, Roger Deakins signera comme directeur de la photographie, ce dernier ayant déjà travaillé avec Mendes sur Jarhead et Revolutionary Road. Dennis Gassner reviendra comme chef décorateur, Jenny Tamine comme costumière, Alexander Witt comme directeur de la deuxième équipe, Gary Powell comme coordinateur des cascades et finalement Chris Corbould et Steve Begg à titre de superviseur des effets spéciaux et des effets visuels. Daniel Kleinman sera de retour ici pour la conception du générique du début après s'être retiré pour permettre au studio de graphisme MK12 de créer la séquence dans Quantum of Solace. Le tournage débutera le 7 novembre 2011 à Londres. Skyfall sera le tout premier James Bond à être filmé entièrement en numérique et sera également le premier de la série à être converti par le procédé IMAX. Tout au long de la production, des vidéos seront diffusées entre décembre 2011 et mai 2012 et comprendront des commentaires de Michael Wilson, Jenny Tamim et de Sam Mendes, une présentation des acteurs et actrices Berenice Marlowe, Naomi Harris et Javier Bardem, montrera des séquences de tournage à Shanghai ainsi qu'à Istanbul et fera la présentation de l'intérieur des bureaux de MI6. Plus de 133 jours seront prévus à l'origine pour le tournage qui seront réalisés dans les stations du métro de Londres, au parking de Smithfield à West Smithfield, au National Gallery, à Southwark, à Whitehall, au Parliament Square, à la gare de Charing Cross, à l'Old Royal Naval College de Greenwich, au Cadogan Square, ainsi qu'au Tower Hill. L'hôpital de Saint-Bartholomew, les bureaux du ministre de l'Énergie et du Changement climatique, ainsi que les tunnels Old Vic sous la gare de Waterloo, seront également utilisés pour le tournage. Pour la séquence de l'explosion au siège du MI6 à Vauxhall Cross, Vauxhall Bridge et Millbank seront fermés à la circulation durant toute la durée du tournage de la scène. Contrairement à The World Is Not Enough, qui réalisera l'explosion dans un bâtiment à l'aide d'une réplique à grande échelle, celle de Skyfall sera ajoutée numériquement en post-production. Pour la séquence finale, cette dernière était prévue au château de Duntroon à Argyll. Cependant, le lieu sera changé pour Glencoe quelque temps après le début de la production. Bien que censée être en Écosse, la maison familiale de Bond sera construite dans le Surrey, en pleine nature, avec du plywood et du plâtre. Une partie du tournage devait avoir lieu en Inde, mais l'équipe de production rencontrera des complications afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour faire fermer des sections du chemin de fer de Kongan pour le tournage de la scène du début du film. Après avoir finalement réussi à obtenir toutes les autorisations nécessaires, les producteurs décideront finalement de ne pas tourner là-bas, remplaçant alors l'Inde par la Turquie. Débutant en mars 2012, le tournage se situant à Adana, dans la périphérie d'Istanbul, sera interrompu par des adolescents turcs qui réussiront à s'infiltrer sur le plateau, alors sous haute sécurité. Pendant les répétitions du combat sur le toit d'un train, ces jeunes seront alors arrêtés par la sécurité. D'ailleurs, pour la séquence de la chute de Bond d'un train passant sur le viaduc, le cascadeur Andy Lester plongera dans le vide d'une hauteur de plus de 300 pieds, l'homme étant retenu par une ligne de sécurité accrochée à une grue sur un des wagons du train. Certaines parties d'Istanbul seront fermées pour toute la durée du tournage en avril 2012. Une indemnisation de plus de 400 $ par jour sera allouée aux propriétaires des magasins situés dans ce secteur, la production permettant à ces derniers d'ouvrir leurs magasins, mais n'ayant pas le droit d'exercer leurs activités. La Chine sera également utilisée, notamment à Shanghai et dans d'autres régions du pays. Pour les séquences aériennes, l'équipe de production recevra l'autorisation de filmer depuis un hélicoptère prêté par le gouvernement chinois. Cependant, de nombreuses scènes se déroulant à Shanghai furent tournées à Londres, ainsi que dans les studios Pinewood. D'autres scènes seront tournées à l'hippodrome d'Ascot, en remplacement de l'aéroport international de Shanghai-Pudong. L'hippodrome d'Ascot avait déjà été utilisé lors de la production de A View to a Kill en 1985. Finalement, d'autres séquences seront tournées sur une île au large de Macao, permettant ainsi à la production de réaliser son tournage principal en moins de 128 jours au lieu des 133 prévus à l'origine. Alors que le film se trouvait en post-production, Sam Mendes décidera d'utiliser le compositeur Thomas Newman pour la composition de sa musique au lieu du musicien David Arnold qui avait composé la musique de Bond depuis Tomorrow Never Dies. Newman avait régulièrement travaillé avec le réalisateur Sam Mendes, notamment sur les films American Beauty, Road to Perdition, Jarhead et Revolutionary Road. Newman deviendra alors le 9e compositeur à réaliser la musique de Bond dans la franchise. Newman n'avait jamais jusque-là dans sa carrière composé de musique pour un film d'action à part entière. De plus, le compositeur se devra de respecter plus de 50 ans d'histoire musicale de Bond et s'appuiera alors plus sur une musique orchestrale que sur des effets synthétisés et électroniques. Ce sera la chanteuse britannique Adele qui sera choisie pour interpréter la chanson du générique d'entrée. Ce sera celle-ci et Paul Epworth, son partenaire habituel pour l'écriture et producteur, qui écriront les textes de la chanson, les arrangements musicaux étant alors confiés à Epworth et à l'orchestrateur G.A.C. Redford. La chanson « Skyfall » sera mise en ligne le 5 novembre 2012, un jour qui sera nommé James Bond Day par les producteurs, cette journée marquant les 50 ans de la sortie du film « Dr. No » au cinéma. Cependant, la chanson ne sera pas présentée sur l'album de la bande originale, tout comme la chanson de 1938 « Boom » du chanteur Charles Trenet et celle de 1964 intitulée « Boom Boom » chantée par le chanteur John Lee Hooker et reprise ici par le groupe The Animals. La chanson « Skyfall » sera nominée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, prix qu'elle remportera, faisant de cette chanson la toute première à remporter un Oscar dans la franchise et la 4e fois qu'une chanson de Bond était nominée. « Skyfall » remportera également le prix du meilleur single britannique au Brit Award de 2013. La première de Skyfall aura lieu le 23 octobre 2012 au Royal Albert Hall de Londres, le prince de Galles, Charles, et son épouse, Camilla, étant présents à l'événement. Le film sortira dans les cinémas américains le 8 novembre et deviendra le tout premier film de James Bond à être projeté dans les salles IMAX d'Amérique du Nord, diffusé ici, une journée plus tôt que la sortie en salle conventionnelle. Le drame d'espionnage remportera plus de 1,1 million de dollars dans le monde entier, devenant ainsi le film le plus lucratif de toute la franchise depuis sa création. En Amérique du Nord, le film sortira dans plus de 3505 cinémas, soit la plus large ouverture pour un film de l'agent 007. Le film rapportera plus de 2,4 millions de dollars grâce aux projections de minuit le jour de sa sortie et 2,2 millions de dollars supplémentaires grâce au cinéma IMAX. Skyfall rapportera plus de 30,8 millions de dollars le jour de sa sortie aux États-Unis et au Canada et plus de 88,4 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, soit le plus gros début à ce jour pour un film de James Bond. À la fin de sa sortie en salle, le film avait rapporté plus de 304,4 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et plus de 800 millions de dollars additionnels dans le reste du monde entier. Au Royaume-Uni, le film aura le 2e meilleur lancement du vendredi au dimanche derrière Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2. Il a également réalisé le 2e meilleur lancement dans les salles IMAX derrière The Dark Knight Rises. Après 40 jours de sortie, le film deviendra le long-métrage le plus lucratif au Royaume-Uni, surpassant même Avatar de James Cameron. De plus, Skyfall établira des records en Suisse, en Inde, en France, ainsi qu'en Autriche. Pour la chanson « Skyfall », interprétée par Adele, celle-ci sera vendue à plus de 7 millions d'exemplaires et deviendra un des singles les plus vendus de tous les temps. En plus de l'Oscar, Adele remportera également le prix de la meilleure chanson au Las Vegas Film Critics Society Awards, au Phoenix Film Critics Society Awards, au Houston Film Critics Society Awards, au Denver Film Critics Society Awards, au Golden Globe ainsi qu'au Critic Choice Movie Award. De plus, Thomas Newman rapportera le prix de la meilleure musique de film au Phoenix Film Critics Society Awards, au Indiana Film Journalist Association Award, au BAFTA Award et au International Film Music Critic Association Award. Ce 23e film de la franchise remportera de nombreux prix, dont la meilleure direction photo au Los Angeles Film Critic Association Award, au St. Louis Film Critic Association Award, au Florida Film Critic Circle Awards, au Utah Film Critic Association Awards, au Houston Film Critic Society Awards, ainsi qu'au Online Film Critic Society Award. Au niveau de la distribution, celle-ci sera félicitée par le prix du meilleur second rôle pour Xavier Bardem au Satellite Awards et pour l'interprétation de Daniel Craig en James Bond au Critic Choice Movie Awards. Même les cascadeurs recevront un prix, ces derniers remportant des prix au Phoenix Film Critics Society Awards ainsi qu'au Screen Actors Guild Award. Les organisateurs du Costume Designer Guild Awards donneront également un prix pour les meilleurs costumes au designer de Skyfall, alors que l'équipe du son remportera l'Oscar du meilleur montage sonore et que la Motion Picture Sound Editor Awards soulignera l'excellent travail au niveau du meilleur montage du son au niveau des effets spéciaux. Finalement, Skyfall remportera le prix du meilleur film au BAFTA Awards de 2013 ainsi qu'au Evening Standard British Film Award de cette même année. L'actrice Helen McCrory, qui fit ses débuts à l'écran en 1994 dans le drame fantastique Interview with a Vampire, décédera suite à des complications reliées à un cancer du sein à sa résidence de Londres le 16 avril 2021, au jeune âge de 52 ans. Quant à l'excellent acteur Albert Finney, que l'on a vu dans des films tels que Annie, Looker, Wolfen, The Playboys et Erin Brockovich, ce dernier décédera d'une infection thoracique à l'hôpital Royal Marsden le 7 février 2019. Il avait 82 ans. Du côté des points forts, eh bien, l'on peut sentir l'amour de Sam Mendes pour l'agent 007, le réalisateur réussissant la lourde tâche d'instaurer une ambiance et un style dignes de l'agent de Sa Majesté. Ponctué d'amusants clins d'œil aux épisodes antérieurs de la série, le scénario est intelligemment écrit et nous propose de nous plonger dans les origines de Bond, mais également de nous donner un vilain dangereux comme l'on n'en avait pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, le réalisateur met l'emphase sur ce vilain avec une entrée tournée de façon simple mais efficace où l'acteur Xavier Bardem se permet un monologue joué d'une brillante façon où l'on comprend rapidement que ce personnage est d'une brillance incroyable tout en étant manipulateur et sadique, un véritable adversaire pour notre agent secret au niveau intelligence. Mendes n'a pas peur non plus de toucher dans l'aspect psychologique de son histoire, sans pour autant rendre son spectacle ennuyant, le réalisateur tournant chacune de ses scènes d'une façon réfléchie et surtout statique. La direction photo de Roger Deakins est tout simplement splendide ici. On a l'impression enfin de voir un véritable film de Bond où le look est digne de l'agent 007 et non une copie conforme d'autres franchises de films d'action. L'interprétation de Craig et de Judi Dench sont excellentes, Craig parvenant à rendre Bond plus amusant, intelligent et humain que dans les volets précédents, alors que Dench prend ici plus de place, la chimie entre les deux acteurs étant tout simplement parfaite. En plus d'une séquence d'introduction des plus spectaculaires, les fans de la série seront heureux de retrouver les personnages de Q, de Moneypenny et de revoir doucement certains gadgets comme dans le bon vieux temps, nous rapprochant ainsi du Bond que l'on a connu autrefois. Mais du côté des points faibles, eh bien malheureusement, à certains moments, le film perd de sa crédibilité avec des séquences impossibles ou encore des actions plus que stupides. Tout d'abord, il est impossible pour Bond de survivre à la séquence d'introduction du film, ce qui donne aux spectateurs de la difficulté à suivre l'histoire par la suite. Par chance, Mendes réussit tout de même de façon ingénieuse à nous faire oublier ce moment et réussit rapidement à regagner l'attention de son spectateur et de le replacer dans l'histoire. L'autre moment est celui de la fin où Bond met la vie en danger de M afin de capturer son vilain. Il aurait pu tout simplement kidnapper son supérieur et la placer en sécurité par la suite et ne pas risquer sa vie inutilement, un geste qui amènera au départ de l'actrice Judi Dench de la franchise. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Thomas Newman qui s'occupe ici de la musique du film, lui qui nous avait donné les trames sonores de Phenomenon, Meet Joe Black, The Green Mile et Real Genius. On peut retrouver la trame sonore du film Skyfall en CD ainsi qu'en vinyle, trame sonore qui est sortie sur le marché le 22 octobre 2012 sous l'étiquette Sony Classical. Du côté des points artistiques, Mediafilm a coté le film Quantum of Solace 4. J'y vais également avec un 4 du côté de l'âge et du contenu. La régie du cinéma a coté le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Du côté du film Skyfall, eh bien, Mediafilm a coté le film 3. J'y vais également avec un 3. Un très bon retour aux sources de l'univers de James Bond. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film 13 ans. Indicatif, j'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence. Au niveau des produits DVD et Blu-ray, eh bien, Quantum of Solace est disponible en DVD, en Blu-ray, ainsi qu'en 4K, en français et en anglais. Ce sera la même chose pour Skyfall, qui est également disponible en DVD, en Blu-ray et également en format 4K.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Ladies and gentlemen, our next attraction.
Coming soon to a theater near you.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
Why would I betray you?
We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
I thought you two would get along.
Name?
Bond. James Bond.
So you're not dead?
Hello, Q. I've missed you.
He's the most valuable asset this country has.
Folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.